Et bonsoir à tous. Soirée spéciale ce lundi 16 mars en attendant une nouvelle déclaration d'Emmanuel Macron tout à l'heure à 20h. C'est vous que nous avons envie d'entendre. Vous avez la parole, nous sommes là pour ça et pour vous. En cette première heure, nous saluons nos amis de France Culture. Nous sommes en direct aussi sur les ondes de culture puisque vous le savez, Radio France met en commun ses moyens pour vous informer au mieux en cette période particulière. Vos interrogations sur la maladie sont les bienvenues, bien sûr. Votre organisation avec les enfants, c'était le premier jour sans écoles, votre organisation avec votre entreprise, vos craintes pour votre travail, les fermetures nouvelles peut-être qui se profilent et puis ensuite et jusqu'à 20h, nous parlerons ensemble de frontières, de civisme, de solidarité et nous écouterons Emmanuel Macron, vous entendrez ensuite les réactions à ses propos. Soyez les bienvenus, cette antenne est la vôtre pendant que vous êtes chez vous et vous avez bien raison d'y rester. On commence avec le journal d'Amélie Perrier et toutes les dernières informations que vous devez connaître. Bonsoir Amélie.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Vers un confinement plus dur en France, après les images de balades au soleil hier dans les parcs parisiens, les autorités pourraient donc renforcer les mesures d'isolement de la population. L'armée se prépare à intervenir. Emmanuel Macron précisera ce soir s'il renforce la quarantaine générale, vous le disiez Fabienne. En tout cas, Édouard Philippe s'est dit pour. Le Premier ministre a également proposé au chef de parti de reporter le second tour des municipales en gardant le résultat du premier tour d'hier. En attendant, cette première journée n'a pas été simple pour les familles. Les outils pour faire la classe à la maison n'ont pas fonctionné comme prévu. Quant aux médecins généralistes, certains sont déjà au bord de la rupture. Ils manquent de masques pour recevoir des patients de plus en plus nombreux à présenter les symptômes du coronavirus.
France Inter. Les Parisiens, Amélie, manquent de discipline.
En tout cas, la ville ferme tous ses parcs et jardins, finit les balades au vert pour s'aérer et permettre aux enfants de se défouler. Les habitants de la capitale étaient encore trop nombreux à la mi-journée, à se côtoyer dans la rue, à se rassembler. La RATP, la compagnie de transport parisien, va réduire son trafic. 2 métros sur 3 demain, 70% des bus et des trams, 60% des RER A et B. Des annonces avant celle du gouvernement ou celle d'Emmanuel Macron, le président de la République, reprend la parole ce soir à 20h. Et certains aimeraient qu'il annonce un confinement strict à l'image de ses passants dans le quartier Saint-Lazare à Paris.
On arrive à un stade, il faut vraiment se mettre en protection totale. Et il faut écouter, quand on voit hier les gens qui étaient dans les parcs, moi ça m'affole quoi. Il faut quand même être raisonnable et puis bon, c'est des mauvais moments à passer, mais il faut appliquer.
Dans votre entreprise, on vous a pas conseillé de rester chez vous ?
Si, mais pour aujourd'hui, on peut récupérer nos différentes affaires et puis organiser le travail pour la suite. Télétravail. Bon, je fais attention, mais y a pas de raison de sombrer dans la psychose.
Ça vous inquiète, vous, cette épidémie de coronavirus ?
Absolument, ça m'inquiète au plus haut niveau, dans la mesure où moi, je suis diabétique déjà, mais je suis obligée d'aller travailler.
Quand vous prenez le train pour aller travailler, vous avez l'impression de vous mettre en danger ?
Ah, beaucoup, oui, parce que les gens, ils n'assurent pas la distance nécessaire. Ils ne sont pas couverts par des masques, on ne sait pas, les gens tous. Si on me donne une attestation, je resterai chez moi, déjà pour ne pas embêter les autres et pour ne pas risquer ma vie.
Voilà, des voyageurs non confinés, malgré eux, on l'entend au micro de Yann Gallic. L'hypothèse d'un confinement dur à l'italienne, les déplacements interdits, est en suspens. On écoutera le président de la République ce soir à 20h. Cela supposerait des barrages routiers, des agents pour faire respecter cet isolement forcé, dont l'armée déployée. Bonsoir Nathalie Hernandez.
Bonsoir.
Les militaires s'y préparent ?
Alors oui, sans aucun doute. Maintenant, vous savez, pour l'instant, les armées ne disent pas grand-chose. Elles se cantonnent à démentir les fausses rumeurs. Mais on le sait, les armées peuvent être réquisitionnées. C'est au gouvernement d'en décider. Et dans le monde militaire, Amélie, il y a la règle des 4 I qui prévaut. Si les moyens civils sont insuffisants, inexistants, inadaptés ou encore indisponibles. Et dans ce cas-là, eh bien, des demandes sont transmises aux armées par l'exécutif. Ensuite, ce sont les états-majors qui vont dire de quels moyens ils disposent et où seront déployés les militaires. Les premiers à pouvoir être sollicités sont bien sûr les soldats de Sentinelle depuis les attentats de 2015. Leur nombre peut monter jusqu'à 10 000 en cas de crise. Si les armées n'ont pas pour mission de faire du maintien de l'ordre, elles peuvent soutenir les policiers et les gendarmes et les renforcer en les aidant, par exemple, à assurer la sécurité dans les rues. Sur le plan sanitaire, les armées sont déjà mobilisées. 5 des 8 hôpitaux militaires de l'Hexagone reçoivent des patients atteints du coronavirus. Dans le cas d'une aggravation, les armées peuvent dépêcher des médecins et des infirmiers dans les établissements civils qui seraient débordés, rappeler aussi des réservistes. Et si on en arrivait à une situation à l'italienne, les militaires seraient capables d'installer rapidement des hôpitaux de campagne. C'est déjà ce qu'ils font en opération extérieure.
Merci beaucoup Nathalie Hernandez. On se prépare donc à ce fameux scénario à l'italienne. Selon le dernier bilan d'hier, nos voisins de l'autre côté des Alpes en sont à 1809 morts, 20 000 cas testés positifs. Notre envoyé spécial dans le nord de l'Italie, Omar Waman, s'est rendu dans la toute première ville touchée par la maladie. Souvenez-vous, c'était Codogno, la première mise en quarantaine. Un isolement qui semble fonctionner. Les habitants se plient aux règles, ils en ont bien compris l'intérêt. C'est le reportage de nos envoyés spéciaux Omar Waman et Gilles Gallinaro.
Après de longues semaines de confinement généralisé, les habitants de Codogno ont appris à vivre avec la menace du coronavirus. Les gens sortent peu, les commerces sont fermés, sauf les tabacs, les supérettes, les stations-service ou encore les pharmacies, comme celle de la place du 20 septembre où les clients font la queue à distance les uns des autres. Le pharmacien Marcello Croce. Les gens viennent avec leur ordonnance et personne ne peut entrer. On les tient à distance, à au moins un mètre. Ce qui est frappant, ce sont ces habitants qui ont pris la mesure du danger que représente le coronavirus. Anan, une Marocaine, le visage masqué comme quasiment tout le monde ici.
On reste à la maison, sauf si on a besoin de sortir, comme moi aujourd'hui.
Mais il y a la vie au quotidien, oisive, sans activité, une situation imprévisible pour les commerçants, comme Alex, 25 ans.
Le plus dur, c'est que je suis propriétaire d'un restaurant qui est fermé. On ne fait rien et je ne sais pas dans quelle mesure le gouvernement va nous aider.
Car c'est au jour d'après que les habitants de Codogno pensent lorsqu'il faudra reprendre une vie normale et constater l'ampleur des dégâts. Codogno, Gilles Gallinaro, Omar Waman, France Inter.
L'Espagne annonce désormais la fermeture de ses frontières terrestres. Un confinement au niveau européen donc. La Commission propose d'ailleurs d'interdire les voyages non essentiels vers l'Union européenne. Schengen se barricade, mais on laisse quand même encore passer les biens de consommation, comme l'explique la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.
Moins nous voyageons, le plus nous pouvons contenir le virus. Je propose aux chefs d'État et de gouvernement d'introduire une restriction temporaire concernant tous les voyages non essentiels à destination de l'Union européenne. Il existe des dérogations. Par exemple, les résidents de longue durée dans l'Union européenne, les membres de la famille des citoyens européens, comme les médecins, les travailleurs de soins de santé, les personnes transportant des marchandises sont également exonérées. Parce que le flux de marchandises vers l'Union européenne doit se poursuivre afin de garantir la fourniture d'articles essentiels tels que les médicaments, mais aussi la nourriture et les composants dont nos usines ont besoin.
Et la mesure sera proposée aux 27 chefs d'État et de gouvernement lors d'un sommet virtuel convoqué demain après-midi, nous dit notre correspondante à Bruxelles, Angélique Bouin, qui a réalisé cette interview d'Ursula von der Leyen.
Et puis, ce lundi était en France une première pour de nombreuses familles, l'école à la maison.
Et la découverte de nouveaux outils numériques pour continuer les cours à la maison. Le CNED, le Centre National d'Enseignement à Distance, fournit des exercices en ligne adaptés au programme. Il y a aussi les ENT pour espace numérique de travail que l'on utilise déjà en temps normal pour les notes et les devoirs au collège et au lycée. Mais ce matin, impossible de se connecter dans plusieurs régions. Les profs n'ont pas pu envoyer le travail à faire. Sonia Princé, la classe virtuelle n'est pas encore tout à fait au point.
Erreur 404, erreur 503, c'est le type de message qu'ont découvert ce matin les professeurs et les élèves. Impossible d'accéder à l'espace numérique de travail de leur établissement. Anne Quéclin enseigne dans un collège de l'Eure.
J'ai pu lire les premiers messages et en voulant changer, accéder à un autre menu de l'ENT, là tout s'est arrêté et il me met un message d'erreur depuis ce matin et je n'ai jamais pu y réaccéder. Ça fait 2 semaines qu'on entendait dire que l'éducation nationale était prête. On regardait ça de loin avec un petit peu de scepticisme parce qu'on savait pas trop en quoi on était prêt. Je pensais pas que dès ce matin, on serait coincé avec un simple problème technique, en fait.
Même chose pour une autre enseignante en banlieue parisienne, inquiète pour ses élèves.
On sait bien que les élèves les plus doués, qui ont le plus de facilité vont essayer plusieurs fois de se connecter, vont faire en sorte de se raccrocher aux branches en essayant de nous joindre par d'autres façons. Mais finalement, les élèves les plus fragiles risquent de se décourager.
Selon le ministère de l'Éducation nationale, il est normal qu'il y ait des phénomènes de saturation le premier jour. Tout devrait rentrer dans l'ordre dès demain. Mais il y aura sans doute des temps de connexion limités pour permettre à chacun d'accéder à son espace numérique.
Et le gouvernement a précisé ce matin qui pouvait travailler ou pas, ce qui allait rester ouvert et fermé. La première version de l'arrêté hier n'était pas tout à fait claire. Peuvent continuer à fonctionner donc les supermarchés, les commerces alimentaires, boulangeries, boucheries et aussi cavistes. Les hôtels, les stations-service continuent de fonctionner. Les vendeurs et réparateurs de vélos et de motos sont également autorisés à ouvrir. En revanche, on apprend que Renault met à l'arrêt toutes ses usines en France. PSA va fermer également ses sites de production dans l'Hexagone et partout en Europe dans les jours à venir. Autant de mesures peut-être durcies donc dans les heures à venir. Vous pourrez suivre l'allocution d'Emmanuel Macron en direct sur France Inter. On attend aussi de savoir si le second tour des élections municipales est maintenu ou pas. Le président a reçu les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat il y a quelques instants. Son premier ministre, Édouard Philippe, a consulté les chefs de parti aujourd'hui. Selon nos informations, il aurait proposé un report du second tour au 21 juin en conservant les résultats du premier tour. En tout cas, c'est une classe politique à l'unisson et c'est inédit, là aussi, au lendemain d'une élection. Des mesures encore plus fortes, d'autant que l'on voit la vague arriver, avertit le chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Certains sont déjà au bord de la rupture, comme les médecins généralistes. Pierre Saïssé exerce à Paris. Depuis la semaine dernière, son cabinet n'est rempli que de cas suspects de coronavirus. Or, il n'a reçu qu'une cinquantaine de masques pour lui et pour ses malades qui doivent en mettre un sur le visage pendant la consultation. À ce rythme, dit-il, il ne tiendra que deux jours.
Si je n'ai pas de masque mercredi, la mort dans l'âme, je n'aurai pas d'autre possibilité que de fermer le cabinet. Je ne peux pas aller au combat à visage découvert et les mains nues. On n'a pas les moyens qui normalement vont avec le stade 3, c'est-à-dire un nombre suffisant de protection. Quand on voit comment sont équipés les médecins du SAMU, harnachés de combinaisons pour prendre en charge les patients, et que nous, on n'a même pas de masque, dans quel pays sommes-nous? Il y a déjà beaucoup de médecins à l'hôpital et de médecins en réanimation. Si tous les généralistes de France reçoivent un nombre aussi important de patients sans masque, dans quelques semaines, un nombre invraisemblable de médecins sera contaminé, malade, hospitalisé ou mort. Et qui va s'occuper des patients dans ces cas-là? J'ai appelé tout ce que j'ai pu appeler. J'ai appelé le Conseil de l'Ordre, j'ai appelé le syndicat MG France, j'ai appelé l'ARS, j'ai même essayé d'appeler le ministère de la Santé. Nous n'avons de réponse de personne. Alors, je pense que l'incurie de l'État dans la fourniture de matériel au cabinet des médecins généralistes est absolument invraisemblable. Parce que moi, j'ai pas du tout envie d'avoir un enterrement dans la cour des Invalides avec la médaille posthume et le discours de Macron. Je veux continuer à soigner mes patients et éventuellement à vivre.
Le docteur Pierre Saïssé, généraliste à Paris, il répondait à Véronique Julia.
Et tandis que les pays se barricadent les uns derrière les autres et que le nombre de victimes explose, les bourses plongent encore.
Les marchés paniquent encore et encore, de Sydney à l'Europe. La bourse de Paris a connu une nouvelle séance de débâcle aujourd'hui, moins 5,75%. Wall Street également obligé de suspendre ses cotations pour éviter la catastrophe en vain. Parmi les grands perdants, les voyagistes également, ils annoncent le report de tous les départs prévu jusqu'au 31 mars. 100 000 clients sont concernés. Décision prise face à l'impossibilité d'assurer les prestations. De plus en plus de pays refusent l'entrée des Français. Face aussi à l'incertitude des retours. C'est le cas de Corinne, partie faire un stage de yoga au Maroc, près d'Agadir. Elle devait rentrer samedi dernier. Elle est coincée. Son vol retour a été annulé. Depuis, la compagnie Transavia a été mandatée pour faire revenir les quelques milliers de Français au Maroc. Mais Corinne n'arrive pas pour l'instant, n'arrive pas à prendre des billets.
C'est extrêmement compliqué parce que en fait, on n'a pas d'information de la part de Transavia. La seule information qu'on a eue par mail est que tous nos vols sont de facto annulés et qu'on doit reprendre par nous-mêmes sur le site internet un vol pour le retour. Les vols retour sont annoncés uniquement sur Twitter. Et dans les 30 secondes ou dans la minute qui suit, l'ensemble des places sont vendues. Donc c'est absolument impossible d'avoir un billet en ligne, sachant que il y a eu deux vols hier, dont un cette nuit, et aujourd'hui, depuis Agadir en tout cas, il n'y en a pas. On n'a absolument aucune information, ni du consulat, ni de Transavia. On se demande vraiment comment les jours prochains vont se dérouler.
Est-ce que vous, en région parisienne, votre famille est sécurisée, enfin, peut se passer de vous?
Oui, absolument. Oui, okay. Absolument. Elle peut se passer de moi. Elle m'a rassurée en me disant que tout allait bien et que je... Je devais encore profiter de ces quelques jours au Maroc et faire le plein de zénitude avant d'affronter ce qui nous attend en France.
Voilà, zénitude, une touriste France, jointe par Thibaut Cavaillès. Et puis dans le reste de l'actualité, en quelques mots, eh bien on apprend quand même aujourd'hui que 20 suspects sont renvoyés devant une cour d'assises spéciale pour les attentats du 13 novembre 2015, parmi eux Salah Abdeslam. Et puis une amende record, 1,1 milliard d'euros infligée à Apple par l'autorité de la concurrence française, la plus lourde sanction jamais prononcée par cette autorité.